Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? En compagnie de Jacques Durand, à deux pas des arènes romaines de Nîmes. Jacques Durand, il y a une chose assez étonnante pour vos lecteurs qui ne sont pas forcément des aficionnes, c'est de découvrir combien la poésie a sa place dans tout ce que vous écrivez lorsque vous parlez de taureaux. À commencer par les toreros, il n'y a pas un nom de torero qui ne passe sous votre plume ou entre vos lèvres et qui ne soit pas lié à un alexandrin, un octosyllabe. La métrique poétique a sa place au cœur des arènes, à commencer par les noms et les noms de scène des toreros.
Oui, quand je remarque qu'un torero, José Antonio Morante de la Puebla, voilà, c'est un alexandrin. C'est pas artificiel ce que je dis sur les rapports entre la poésie et la corrida. Je suis pas, évidemment pas le premier à le dire. Lorca l'avait dit, il avait dit que la tauromachie était la puissance poétique et vitale la plus importante de l'Espagne à son époque. Les toreros, ça va peut-être étonner beaucoup d'auditeurs, les toreros baignent beaucoup dans la poésie, que ce soit une poésie savante ou une poésie populaire. Le torero, par exemple, Niño de la Palma, qui torait dans les années 30-40, qui était le père d'Antonio Ordóñez, s'étonnait, il disait « Mais je ne comprends pas pourquoi on fait tant de poèmes autour de moi. » C'est une sorte de tradition. Aux toreros, on leur jette des cigares, des fleurs et des poèmes. Je me souviens d'une corrida que j'avais eue à Jaén il y a une quinzaine d'années. C'était un torero qui s'appelait Emilio Oliva qui torait. Et il y avait un vieux bonhomme qui s'était levé dans le gradin et qui lui avait envoyé un poème qui lui disait « Arte, Emilio, c'est avec joie que je t'adresse ce poème. Tu es le meilleur torero qui soit sorti de Chiclana. Et si tu continues comme ça, je te marierai avec ma sœur. » Ça peut être aussi un peu grotesque. Et le lendemain, il y avait un autre torero. Il avait sorti le même en changeant simplement le nom Emilio et Chiclana. Il y a de la poésie autour de la mort du torero. Il y a beaucoup de poèmes. À la mort de Graner qui s'est fait tuer en 22 dans les arènes de Madrid, il y a un poète qui avait dit « Quand Graner mourut, les orangers se couvrirent de sang ». Enfin, voilà, il y a des choses graves et des choses beaucoup plus légères. Ce qu'a fait, par exemple, Rafael Alberti, toujours avec ce fameux Niño de la Palme, il a écrit des poèmes qui s'appelaient « Chuflillas para el Niño de la Palma ».« Chufli », ça veut dire « petite plaisanterie autour du Niño de la Palma ». Donc voilà, il y a toutes sortes de choses poétiques qui s'agitent autour des toreros, et c'est ancien. Moratín, l'auteur au XVIIIe siècle, écrivait une élégie à Pedro Romero, le fameux torero de Ronda. Donc voilà, c'est ancien, c'est une vieille tradition.
Il y a les noms des toreros pour vous, Jacques Durand, qui résonnent comme ça, de façon poétique, comme ce José Mari Manzanares, l'octosyllabe, qui vous fait écrire qu'on va enfin ouvrir la porte à la poétique métrique torera que Manzanares garde dans ses poignets. Il y a le fameux José Antonio Morante de la Puebla, cet alexandrin qui vous tient tant à cœur. Vous écrivez même que Morante torait comme s'il se raclait la gorge avant d'expulser quelques crachats angéliques et des demi-véronicas comme des haïkus. Alors est-ce que ça parle aux toreros des références pareilles ?
Il y a eu des toreros qui ont été poètes. Mario Cabré, torero catalan des années 40, était un poète qui écrivait en catalan, qui a fait beaucoup de recueils de poésie et qui était en même temps torero, acteur de cinéma, acteur de théâtre, et Amanda Wagner, tout ça. Mais je pense que la sensibilité d'un torero comme Morante de la Puebla ou de Manzanares sont baignées soit par les coplas du flamenco, par cette sensibilité qu'il y a au sud de Séville, ce qu'on appelle la basse Andalousie, où beaucoup de choses se transforment comme ça en références poétiques qui font plus appel à l'irrationnel qu'à la raison ou qu'à la logique. La tauromachie, c'est irrationnel. Ce que fait Morante de la Puebla devant un taureau, quelquefois, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Je me souviens d'une corrida au Puerto de Santa Maria. Après la corrida, il demandait à ses péons, mais qu'est-ce que j'ai fait comme passe, là ? Ils sont pris dans une sorte de fièvre, enfin certains, pas tous, hein. Une sorte de fièvre poétique et de créativité comme ça, qui se réfère au monde de la poésie hors de toute prose.
Dans Humbles et Phénomènes, Jacques Durand, l'un de vos chapitres s'intitule « L'ultime été du torero-poète Sanchez Merias ». Quel était cet homme et qu'est-ce que c'est qu'un torero-poète ? Même si ça rime drôlement bien à l'oreille, cette telle assonance.
Voilà, alors Ignacio Sanchez Merias, c'était un jeune homme issu de la bonne bourgeoisie sévillane. Son père était médecin. Et lui a voulu devenir torero. Il est devenu torero, un de bon torero, très courageux. Enfin, je ne l'ai pas vu torer. Il est mort tué par un taureau bien avant que je naisse. Et d'après ce que j'ai lu, ce compte rendu, il avait une tauromachie plutôt vigoureuse, courageuse. Enfin, pas quelque chose qui fait allusion comme ça au lyrisme ou à la finesse de la poésie. Mais il était protecteur des poètes. À Séville, en 1927, c'est lui qui a réuni la génération des poètes de 1927, Alberti, García Lorca, Bergamine, pour faire un éloge de Góngora. Et c'est lui qui avait financé tout ça. Ils avaient invité dans sa propriété de Pino Montano, près de Séville, où de là, il téléphonait à New York, où se trouvait sa maîtresse, la Argentinita, qui était une danseuse, uniquement pour lui demander de faire le taconeo, vous savez, le coup du talon, et que par téléphone, il le fasse écouter à Lorca, Alberti, Bergamine, tout ça, de New York à Séville. Déjà, cette espèce de souci du rythme, de la scansion, du taconeo, des flamencos, de la tauromachie, ça le définit comme poète. En même temps, il a écrit quelques poèmes, en particulier à sa fille, qui était une orasthénique. Et je me souviens d'un vers où il dit « Ta tristesse traversée par mon épée ». Il voulait tuer la tristesse de sa fille avec son épée. Et donc, il a eu un final tragique, puisqu'il s'est fait tuer à Manzanares, une ville de la Mancha, dans l'été 34. Il était ami de García Lorca, qui était de Grenade, et le taureau qu'il a tué s'appelait Granadino, de Grenade. Donc, évidemment, tout ça, quand on est un peu exalté autour de la tauromachie, ça crée une ambiance un peu magique, qui est proche de la poésie, à mon goût.
Et votre goût à vous, Jacques Durand, il est né comment? Comment ça vous vient, un tel rapport consanguin avec la poésie, pour citer Audi Berti, pour citer Lorca, bien sûr, comme tout le monde, mais tant d'autres, c'est que c'est un lien fort qui ne date pas d'hier.
Je lis de la poésie depuis longtemps. Mes auteurs, c'est voilà, L'autre Hermon, Rimbaud, voilà, des gens comme ça. Et je pense que plus je suis rentré dans l'essai de commentaires de la corrida, plus je me suis aperçu que c'était la poésie qui en disait plus que le compte rendu technique que font beaucoup de critiques taurins. Il me semble que pour capter l'émotion sublime qui peut arriver dans la corrida quand elle arrive, parce que, bon, évidemment, ce n'est pas toujours sublime, c'est quelquefois même l'inverse. Il me semble qu'il n'y a que la poésie qui peut faire ça. Et par exemple, un écrivain taurin entre guillemets, comme Bergamine, lui est arrivé dans la musica caliera du torero à dire des choses sensées et profondes sur la corrida et réelles à partir de la poésie. Aussi, à partir de poèmes sur le taureau, je pense à ce magnifique poème très bref sur le taureau où il dit « España negra y vacía, oscura como la noche, le llena un toro de sombra, un toro negro y enorme, tenebroso toro osborne ». C'est-à-dire « L'Espagne, noire et nue, vide comme la nuit, un taureau d'ombre la remplit, un taureau gros et énorme, ténébreux, taureau Osborne. » Mais il n'y a pas les allitérations, évidemment, comme dans la langue espagnole. Ce poème du taureau Osborne, du ténébroso taureau Osborne de Bergamine, pour moi, voilà, ça soulève des images, où un taureau qui sort du toril, qui sort de la nuit, qui a une tragédie sur chaque corne, comme disait Miguel Hernández, le poète. Voilà, c'est vers ça que j'essaie d'aller.
Et on fait comment pour transmuter cette musica callada que Florence Delay a traduit par la solitude sonore, qui en fait est cette musique tue que José Tomás, d'ailleurs le torero, cite lorsqu'il fait une dédicace. Très souvent, c'est ça qui lui vient, ce silence-là. Parfois, vous avez écrit, Jacques Durand, que beaucoup cherchent à balbutier l'indicible de ce type. Ce type, c'est le torero en question. Je pense aussi à ces astrophysiciens qui, lorsqu'ils n'arrivent pas à décrire une chose folle et dingue, ont recours à la poésie. La poésie, ça marche comment pour pouvoir dire cet indicible-là?
Ça marche justement sur l'impuissance de la prose à le dire. La grande, grande corrida que José Tomás a faite à Nîmes en septembre de l'an dernier, j'ai dû en parler évidemment, mais alors je ne savais pas comment faire. Je n'allais pas faire un compte-rendu taureau par taureau, il a fait ci, il a fait ça. Ça aurait été absurde, ridicule, grotesque même, ça aurait rien dit de la corrida. Et donc j'essayais de faire un texte qui vaut ce qu'il vaut, qui est peut-être parfois ridicule, ou qui est peut-être une spéculation intellectuelle, pas fausse, mais peut-être pas outrancière non plus, mais... il me semblait que c'était la seule façon de décrire l'émotion que tout le monde avait ressentie ce jour-là, c'était par la force de l'image poétique. Maintenant, définir ce que c'est que la poésie, je serais incapable.
En tout cas, Rosé Thomas, vous le définissez, Jacques Durand, comme ce torero taciturne qui t'aurait les pieds bien à plat et vous appelez à la rescousse Stendhal et son devoir d'impassibilité. Il y avait aussi la noirceur secrète d'Audi Berti ou une liturgie de l'angoisse. Et ailleurs, vous citez encore Stendhal pour un autre torero, mais ça se recoupe comme toujours. Stendhal qui disait « Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur ». Et la poésie touche aussi à cela. Le 16 septembre 2012, avec Rosé Thomas, c'était un moment de pur bonheur.
Ah oui, c'est, je ne sais pas, c'était longtemps après cette corrida, beaucoup de gens me téléphonaient pour me dire leurs sentiments, et en même temps, ils ne pouvaient pas le dire, et puis moi non plus, je ne pouvais pas leur répondre. C'est une espèce de, on va dire, une transe émotionnelle, une syncope, enfin voilà, vous voyez, je suis maladroit pour le raconter. Et c'est quelque chose qui est resté longtemps et qui reste encore quand je me réfère à cette corrida et que j'entends par exemple le flamenco, Concha flamenco qu'ils avaient joué à Somalay, des larmes me viennent aux yeux. Et donc, quoi d'autre peut provoquer ce genre de bouleversement sentimental chez un type de 70 ans, sinon la poésie quand elle est grande et la tauromachie quand elle est grande?
Est-ce qu'on peut parler de tauromachie, Jacques Durand, un peu comme lorsque l'on veut classer la poésie en mouvement ou en lyrisme, en formalisme, en épique, enfin, est-ce que ça vous guide cela aussi, ces différents moments d'écriture poétique qui peuvent se retrouver dans l'arène, puisque même si le torero torait silencieusement, il écrit quelque chose?
Ah oui, parce que il me semble que dans la tauromachie, il y a autant de diversité que dans la poésie, c'est-à-dire qu'il y a des corridas qui atteignent le ridicule, le burlesque, le scandaleux, ou il y a des poèmes mirlitonesques qui ne sont pas de la poésie, voilà, qui sont des trucs rimés. On voit des toreros qui font beaucoup de passes, et c'est comme s'ils mettent des rimes artificielles au bout de chaque passe, mais ça ne dit rien de l'acte toromachique et de la passe quand elle a un sens profond et qu'elle exprime le taureau et qu'elle exprime l'être du torero. Donc oui, il y a autant de mauvaises poésies que de mauvaises corridas, que de mauvais taureaux, que de mauvais toreros. Voilà, donc il faut puiser là-dedans. Et il me semble que les aficionados, ils sont toujours en manque, ils sont toujours comme ça, dans le regret ou dans la nostalgie, parce qu'ils ont vu un jour, ou ils ont cru voir un jour... quelque chose à travers un taureau et un torero, et ils le recherchent, ils le répercutent, ils l'alimentent avec leur imaginaire. Voilà, il y a des toreros qui donnent à manger à notre imaginaire, et d'autres pas. Il me semble qu'il y a des toreros qui toraient en prose, de façon prosaïque, et d'autres qui toraient en vers. Il y a des toreros où on les regarde et voilà, on reste bon, froid comme des poissons, et d'autres dont le seul nom, José Antonio Morante de la Puebla, par exemple, suffit à allumer quelque chose d'un peu incandescent dans l'esprit.
Il est un autre poète, Jacques Durand, qui est souvent derrière votre épaule. C'est Nietzsche, le philosophe a un peu éclipsé le poète, et pourtant il y avait ainsi parlé Zarathoustra. Vous citez par exemple cette phrase-là, « Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse ».
Ouais, il me semble que j'ai dit ça justement à propos de Morante de la Puebla, qui est un torero, on va dire, chaotique. Bon, c'est un type qui a eu des problèmes psychiques importants, au point qu'il a été allé se faire soigner à Miami, des problèmes de dédoublement de personnalité. Et Morante dit que c'est quand il souffrait le plus comme individu qu'il torait le mieux. Et j'ai retrouvé ça dans une autre déclaration d'un autre torero, un torero du début du XXe siècle, Rafael El Gallo, qui était torero gitan, et il dit que c'est quand j'étais le plus malheureux que j'étais le mieux en piste devant un taureau. Il me semble que cette souffrance intérieure, ces toreros-là l'exorcise ou la purifie ou la recycle à travers la tauromachie. La tauromachie, je parle de zim bam boum, des peignes, des fanfares, de ce que les gens croient qu'elle est. C'est quelque chose de noir et blanc, d'austère, et parfois de janséniste. Et donc, oui, cette phrase de Nietzsche m'avait beaucoup plu parce que ça me faisait penser au chaos qui habitait Morante et qu'il disait lui-même. Hein, il disait qu'il souffrait, qu'il y a des jours où il ne pouvait pas se lever, il pleurait parce qu'il souffrait. Et puis que c'était à ce moment-là qu'il trouvait le mieux, donc que la tauromachie l'amenait vers autre chose, une sorte de rédemption, de, voilà, je sais pas, de calme.
Qu'est-ce qui vous bouleverse tant, Jacques Durand, chez tous ces types, comme vous les appelez, pour dire leur côté extraordinaire, mais en même temps bien ancré sur la terre, qui, tel Ivan Fandinho, parfois parle d'eux à la troisième personne? Qu'est-ce qu'ils ont de si lointain et de si proche à la fois qui fait que, très souvent, la poésie est la plus à même de les toucher du doigt, puisqu'on les regarde au loin, même si on est dans le Caléron?
D'abord, ils font des choses que je suis incapable de faire. Aller se mettre devant un taureau. Quand vous êtes dans la contre-piste, même dans les gradins en bas, que vous voyez un taureau de combat sortir, vous vous dites, mais il faut un courage inhumain ou surhumain pour aller devant cette chose. Et il faut un courage inhumain ou surhumain pour se mettre en jeu artistiquement devant 20 000 personnes qui sont prêtes, parce que vous ratez une passe, à vous siffler, à vous mettre plus bas que terre. Donc pour moi, ce sont des héros de l'esthétique ou des héros poétiques. Voilà, parce que c'est dans l'immédiateté qu'ils jouent tout leur savoir-faire et toute leur réputation. Et ce sont des gens, en plus, qui restent sur une sorte de quant à soi ou de réserve que je trouve admirable. Ce n'est pas des remueurs de mécanique. Enfin, il y en a qui le font, mais les grands toreros, non, quoi. Ils attendent que ça sorte d'eux.
Vous avez cette phrase, Jacques Durand, qui dit... Puis, avec la même morgue, il en avait donné d'autres, ce sont des passes, à genoux, avant de plier sa muleta sur sa poitrine, comme on tente de calmer l'angoisse de son cœur en le froissant dans sa main. C'est ça, en fait, les toreros au cœur sans lézarde, comme on a pu lire ailleurs.
Oui, je crois que j'ai dit ça sur le torero qui s'appelle Litri, Miguel Baez Litri, qui faisait ça. Il appelait le taureau de 40 mètres avec la muleta pliée. Donc le taureau galopait vers lui, il restait immobile. Au dernier moment, il dépliait sa moulette pour le faire passer comme ça. Et au bout d'un moment, il repliait sa moulette et il la mettait sur son cœur. Et j'imagine qu'à ce moment-là, quand même, son cœur doit battre à 300 à l'heure. Et même si l'adrénaline des toreros leur sert à surmonter ces moments-là, derrière ces passes-là, il y avait toute l'histoire de la dynastie Litri, où il y a beaucoup de morts. C'est une famille de toreros où le premier arrive à la fin du 19e siècle, il a un fils qui devient torero, mais sa famille ne veut pas. Puis ce fils-là est torero, il a un fils, Manuel, il veut l'écarter des taureaux. Manuel devient torero, se fait tuer par un taureau à Malaga. Et le père de Manuel épouse la fiancée de Manuel. Et ils font un enfant qui est ce Miguel Baez Litri qui pliait sa molette sur son cœur. Donc derrière ce mouvement-là, j'imagine cette espèce de lourd, de truc lourd, et très, comme un gros nuage noir, qui est l'histoire de sa famille.
Jeudi, Séville, bonjour tristesse. Les taureaux de Quadri, écrivez-vous Jacques Durand, sont irréprochables. Profonds, sérieux, armés, carrosserie parfaite, ce qu'il faut, là où il faut, bodybuildés. Des chippendales. Mais des chippendales en grève ou en plomb. Ils ne bougent pas ou à peine. Une beauté baudelairienne. Ils haïssent le mouvement qui déplace les lignes. Eux ne se déplacent pas pour si peu ou manifestent quelques tendances à filer en Kerienza, vers les barrières.
Oui, ces taureaux-là de Quadri, c'était magnifique, c'était bien fait, comme des vrais taureaux, avec le morillo, le bosse au-dessus du dos, etc., des grandes cornes, mais ils ne bougeaient pas, donc ils avaient une espèce de beauté parnassienne. Ils haïssaient le mouvement qui déplaçait les lignes, voilà, pour revenir à Baudelaire. Donc on pouvait les admirer comme ça, mais leur fond était inexistant. Donc ils n'ont pas pu provoquer des émotions tauromachiques. Un beau taureau sort dans une arène, les gens l'applaudissent parce qu'il est beau. Hein, on l'a vu à Nîmes quelques fois pendant cette feria. Donc il y a aussi l'aspect physique du taureau, ce qui se dégage de lui, l'espèce de force ou de sauvagerie qu'on peut imaginer dans son comportement à venir et qui parfois ne vient pas pour X raisons. Donc, je dis qu'il y avait beaucoup de poèmes autour des toreros, il y en a autant autour des taureaux, de poèmes. Enfin, le taureau porte une animalité un peu bizarre, parce que le taureau de combat n'est pas le produit naturel de la nature, c'est quelque chose qui a été fait pour ce jeu-là de la corrida, et qui a été fait par le jeu de la sélection. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas naturel pour un taureau, par exemple, de charger en baissant la tête. C'est anti-naturel. C'est pas naturel pour un torero, quand il voit 500 kilos qui foncent sur lui, d'écarter les bras, d'offrir sa poitrine, alors que l'instinct de survie, à l'inverse, dit qu'il faut se recroqueviller dans le danger. La corrida, c'est anti-naturel. C'est, voilà, le taureau, c'est pas naturel pour lui de charger tête basse, et le torero, c'est pas naturel pour lui de s'ouvrir, d'offrir son corps devant ce danger qui arrive à 60 km à l'heure. Alors peut-être là, il y a quelque chose aussi de ce qu'est la poésie, qui n'est pas la simple scription d'éléments de la nature. C'est une nature qui est retravaillée par l'imaginaire de l'homme.
Et si l'on pense à la corrida dans sa liturgie, dans sa façon de se dérouler avec les trois temps, le passeo, toutes ces choses-là, il y a une forme immensément écrite, un peu comme la poésie.
Oui, c'est très codifié, donc la corrida, c'est... En même temps, c'est très codifié, et dans cette espèce de code très rigide, ça peut laisser place à l'imprévu, au désordre, mais le tout dans une forme stricte. Hein. Les combats sont 20 minutes, c'est fini, le commandant taureau, ça ne doit pas aller au-delà. Ça peut faire penser aux formes strictes du sonnet, par exemple. Hein. Quelque chose de rigide, avec des coupes à l'hémistiche, voilà. Et à l'intérieur de ça, il se passe quelque chose. C'est la contrainte qui est poétique. Je crois moins au vers libre qu'à la contrainte poétique. Donc cette forme rituelle codifiée de la corrida, qui a des raisons historiques, etc., c'est ce qui donne aux gestions de l'imprévu sa force. L'estocade, ça peut être comme l'envoi dans un poème, hein, tac, réussi ou raté.
La poésie, c'est la contrainte, mais c'est aussi le risque dans la corrida. C'est la mort jusqu'à ces toreros que vous connaissiez, Jacques Durand, qui allait se recueillir sur la tombe d'Antonio Machado, qui dort à Collioure avec une boîte aux lettres, si jamais on veut encore lui écrire aujourd'hui.
Le torero dont vous parlez, c'est Luis Francisco Espla, qui est un homme assez cultivé, qui lit beaucoup, et qui, chaque fois qu'il venait en France, allait s'arrêter à Collioure sur la tombe d'Antonio Machado. Alors, je ne sais pas s'il mettait une lettre dans la boîte aux lettres, peut-être, peut-être pas. C'est un torero qui a réputation d'être intellectuel. Les toreros, bon, ils lisent peu, hein, en fait. Lui avait cette espèce de souci-là, et j'ai eu l'occasion de parler quelques fois avec lui. Il se réfère pas mal à la poésie pour dire ça, quoi. Et il pense que sa tauromachie à lui, Espla, ne peut être que méditerranéenne. Voilà, ça correspond au reflux des vagues de la Méditerranée, avec en même temps quelque chose d'harmonieux. C'est pas l'océan dramatique. Lui, il veut dédramatiser la corrida. Il veut en faire comme un jeu. Je suis allé chez lui, par exemple, il n'y a aucune tête de taureau dans sa maison, voilà, rien qui rappelle ce truc. Et il m'a dit, quand je prends un coup de corde, ma fille pensait que j'étais comme un maçon qui était tombé dans l'échafaudage. Il disait que ça avait un rapport avec son... Il est d'Alicante, donc ça avait un rapport avec la Méditerranée, voilà, l'harmonieux, l'ensoleillé, plutôt que le sombre, plutôt que l'océan du côté de la tombe de Chateaubriand. Quoi. Un des poètes que je préfère, c'est l'Autréamont. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre, de le fourrer dans un... Mais je vais y penser. Je pense que vieil océan au grand célibataire, ça peut peut-être convenir à un grand taureau qui sort en piste.
Cela signifie, Jacques Durand, qu'il peut y avoir des poèmes, des bribes de vers que vous avez en tête en attendant le torero qui leur ira comme un gant.
Par exemple, j'aimerais un jour pouvoir placer René Char quand il dit... Quand la neige s'endort, la nuit rappelle ses chiens. Et j'aimerais pouvoir un jour le citer, même de façon artificielle, pour rappeler la beauté de ce genre de phrase poétique.
Parce que ça éveille quoi chez vous, Jacques Durand, cette phrase-là de René Char?
Ça me provoque une émotion d'abord épidermique, un peu comme quand je vois une passe magnifique ou un combat magnifique. C'est quelque chose qui serre le cœur, quoi. Voilà, c'est... L'émotion taurine, c'est une émotion qui va plutôt vers le silence et le serrement de cœur que vers enfin, chez moi, que vers une explosion comme ça, lyrique. Hein. Ça a plutôt tendance à me renfermer sur cette émotion-là, quoi.
Heureusement qu'il y a l'écriture ensuite pour partager et pour dire tout cela.
Ouais, voilà, heureusement qu'il y a l'écriture ensuite, mais c'est beaucoup de responsabilité d'essayer de dire la beauté taurine à travers des lignes. Donc, quelquefois on y arrive, quelquefois on n'y arrive pas. Hein. Quelquefois on se heurte à ça, à cette émotion qui n'est pas transmissible. Voilà, je pense toujours à cette fameuse corrida de Rosé Thomas. Je suis sorti des arènes bouche cousue pendant plusieurs heures. Et puis des gens me demandaient ce que j'en pensais. C'était comme une agression un peu vulgaire. Ce Rosé Thomas-là s'adressait à l'intimité, à mon intimité. Et donc je ne veux pas quand même dévoiler toute mon intimité comme ça. Mais ça, c'est sûr que ça s'adressait à mon intimité.
Et en vous écoutant, Jacques Durand, j'entends également ce titre de Reverdy, cette émotion appelée poésie. Et je repense aussi à l'habit de lumière de Rosé Thomas, à cette couleur indéfinissable entre le gris, le violet, le noir, le marron, selon où l'on était et selon la lumière du soleil. Vous aviez une belle formule qui était que c'était tout près de l'ardoise et que c'était pour cela qu'on pouvait écrire dessus.
Mais en même temps, c'est une ardoise et c'est quand même pas l'imceste, parce qu'un taureau est face à l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un torero est mauvais, il prend une bronque, on le siffle, tout ça. L'autre torero sort, c'est fini. Hop, c'est oublié. Il faut qu'il refasse. Voilà, c'est un palimpseste, quelque chose hop, qui s'efface et qui revient. Le taureau s'efface et revient, le taureau rôde. En Espagne, de voir ces vieilles affiches déchirées de corrida. Seis toros, seis, un nom de taureau, un autre torero, une arène, et puis une autre qui l'a recouverte, une autre affiche de corrida. Voilà. Le taureau, c'est comme un rôdeur. Il vient, il sort, il meurt, il revient, il fouine, voilà, il passe par-ci, il passe par-là. Voilà, je le vois comme un rôdeur, le taureau.
Les livres de Jacques Durand sont principalement chez Verdier et Actes Sud. Quant à son épatante et poétique page taurine hebdomadaire, elle est sur abonnement aux éditions Atelier B. Merci à Alette Jourdan qui nous a ouvert la salle Rosé Thomas de son musée des cultures taurines de Nîmes pour enregistrer cet entretien en pleine temporada. Ça rime à quoi ? 24h sur 24 sur www.franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi ? Philippe Bredin, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.